Lisons un passage du livre de Josué, dans le premier chapitre du livre de Josué. Josué, premier chapitre, premier verset. Et il arriva, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, que l'Éternel parla à Josué, fils de Nun. Mon serviteur est mort. Et maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je leur donne à eux, les fils d'Israël. Tout lieu qui foulera la plante de votre pied, je vous l'ai donné. Comme j'ai dit à Moïse, vos frontières seront depuis le désert du Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Personne ne tiendra devant moi tous les jours de la vie, de ta vie. Comme j'ai été avec Moïse, ainsi je serai avec toi. Je ne te laisserai point et je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et sois ferme, car toi, tu feras héritier à ce peuple le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Seulement, fortifie-toi et sois très ferme pour prendre garde à faire selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a commandé. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche, afin que tu prospères partout où tu iras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, et médite-le jour et nuit, afin que tu prennes garde à faire selon tout ce qui est écrit, alors que tu feras réussir tes voies, et alors tu prospéreras. Ne t'ai-je pas commandé, fortifie-toi et sois ferme, ne te laisse point terrifier et ne sois point effrayé, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. Jusqu'ici. Ce petit passage que nous venons de lire, bien sûr, ce sont des paroles adressées à Josué, qui avait cette tâche de devenir le conducteur du peuple de Dieu pour les amener dans le pays. Et c'est un passage qui on pourrait dire un message adressé à Josué, qui a ce but de l'encourager. Et ce message l'encourage surtout à faire confiance en Dieu et à faire confiance en sa parole, à écouter attentivement la parole, et il est assuré en même temps la victoire. Alors, peut-être nous pouvons regarder Josué de deux angles, deux perspectives. Premièrement, peut-être c'est l'application pratique plutôt, il est une image d'un croyant. Et ce message qui doit l'encourager nous encourage aussi. Alors, c'est le message d'être vaillant, d'avoir du courage, et c'est l'encouragement d'écouter la parole de Dieu et d'agir selon la parole de Dieu. Et deuxièmement, et peut-être j'aurais dû choisir l'ordre inverse, Josué est aussi une image du Seigneur Jésus. C'est intéressant que le livre commence en disant « Et il arriva après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, que l'Éternel parla à Josué. » Pourquoi mentionner cela? Après la mort de Moïse. Dans un sens, Moïse aussi, il était une image du Seigneur Jésus. C'était celui qui avait libéré le peuple de l'Égypte, qui les a fait traverser la mer Rouge et qui les avait menés dans le désert. Mais maintenant, il y a une autre question. Maintenant, il n'est plus question d'être libéré de l'Égypte ou du pouvoir du Pharaon, mais il est question d'entrer dans le pays et de posséder le pays que Dieu avait promis. Et ce sont des choses qui nous parlent en tant que chrétiens. Parce que c'est une chose de savoir mes péchés ont été pardonnés. Dieu, disons, je suis protégé du jugement de Dieu. On pourrait dire que ça, c'est la Pâque. Mais après la Pâque, les Israélites, bon, ils savaient, Dieu ne va pas nous juger, hein. Il a dit, si je vois le sang, je vais passer. Alors, ils étaient en sécurité du jugement de Dieu. Mais ils avaient un autre problème. Ils étaient encore en Égypte. Ils étaient encore en esclavage. Et pour cela, ils devaient traverser la mer Rouge. Et seulement quand ils avaient traversé la mer Rouge, ils pouvaient chanter. Hein? Exode 15, vous pouvez dire... Dieu est grand, il a vaincu les armées du Pharaon et il nous a libérés. Et ça, c'est l'image d'un croyant qui sait que ce n'est pas seulement que Dieu a pardonné nos péchés, mais nous n'avons plus besoin de servir le péché. On dit cela, on appelle cela dans le Nouveau Testament la vérité de l'affranchissement. Si c'est un mot qui a un son un peu étrange, je propose de le chercher dans les écrits, ou peut-être encore mieux d'étudier l'épître aux Romains, parce que là on trouve une personne dans le chapitre 7 qui n'est pas encore affranchie. Il est né de nouveau, il dit « je veux ce qui est bien, mais je n'arrive pas ». Et à la fin du chapitre, bon, il fait des découvertes diverses dans ce chapitre, et à la fin, il est libéré, il est affranchi. Et ça marche comment? Bon, il n'attend plus rien de soi-même, il reconnaît « je n'ai pas la force », et il dit « il y a une force qui m'a affranchi ». Alors, c'est quelle force? Il appelle cela... la loi de la puissance de vie en Jésus, en Christ. Alors, je vous donne le verset. Je cite correctement Romains 8. Verset 2. La loi de l'esprit de vie dans le Christ Jésus. Alors, cette loi est plus forte que l'autre loi qui veut qu'on serve le péché, qu'on trouve juste avant, non, juste après, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Alors, ça il faut bien comprendre. Hein. Il y a deux lois. Il y a une loi qui nous tire, qui veut nous retirer en bas. C'est la loi qu'il appelle la loi du péché et de la mort. C'est la loi qui veut dire qu'il faut toujours obéir au péché. Maintenant, il dit qu'il y a une autre loi qui est plus forte et qui m'a affranchi de cette loi. Alors, vous rendez compte que loi ici, ce n'est pas quelque chose de juridique, mais plutôt de physique. Hein. C'est comme une loi de sciences naturelles. Alors, quelle est cette autre loi qui m'a affranchi? C'est un nom qui paraît un peu difficile. Hein? La loi de l'esprit de vie dans le Christ. Quoi? La loi de l'esprit de vie dans le Christ. Oui. Simplement dit, ça veut dire, C'est la puissance du Saint-Esprit qui nous a été donnée comme force, comme puissance de notre nouvelle vie. Et comment il agit, le Saint-Esprit? Il nous occupe avec le Seigneur Jésus. Alors, dans mes propres mots, ça veut dire, dans le chapitre 8, on a quelqu'un qui est sérieux, qui veut suivre le Seigneur et qui constate, je fais faillite, hein, encore une fois, je réalise, je fais ce que je ne veux pas faire. À la fin, quand il a compris finalement qu'il n'a pas la force, il dit, ah, ça marche tout autrement. Je ne dois plus m'occuper avec moi-même, mais je dois permettre au Saint-Esprit de m'occuper du Seigneur Jésus. Et qu'est-ce que ça fait? Bon, ça nous donne la joie. Et quand on a la joie dans le cœur, qu'est-ce qu'on fait? On chante, on prie, on veut suivre le Seigneur. Et si le péché arrive pour tenter, on dit, mais merci, je suis déjà tellement heureux, je ne crois pas que tu puisses me rendre plus heureux que je suis. Tu peux seulement me rendre malheureux. Alors c'est l'esprit de vie dans la loi de l'esprit de vie dans le Christ Jésus. Alors on pourrait dire, à la fin de la parenthèse, c'est le moment où on a traversé la mer Rouge. Maintenant on a réalisé, je ne suis plus sous le pouvoir du pharaon. Il n'a plus rien à dire sur moi. Je ne suis plus esclave. Je suis libre. Maintenant, je peux vivre pour mon Dieu. Je peux adorer, etc. Mais maintenant, il est question de traverser le Jourdain. Il est question de prendre possession du pays. Alors, qu'est-ce qu'il y a de plus? D'abord, le pardon, hein, la Pâque. Après, on a la délivrance ou l'affranchissement de la mer Rouge. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus? Qu'est-ce qu'on peut encore avoir? Bon, je vous lis un verset. J'espère que ça vous donne envie de découvrir. Deutéronome 8, verset 7. Car l'Éternel ton Dieu te fait entrer dans un bon pays, un pays de ruisseaux d'eau, de sources et d'eau profonde qui sourdent dans les vallées et dans les montagnes, un pays de froment et d'orge et de vignes, de figuiers, de grenadiers, un pays d'oliviers à huile et de miel. Un pays où tu ne mangeras pas ton pain dans la pauvreté. Alors ça suffit? Vous avez envie d'y aller? Imaginez-vous l'esclavage en Égypte, imaginez-vous les privations du désert, et maintenant un pays comme ça. C'est un pays d'abondance, un pays où on peut se régaler de tous ces bons produits. Et ça, c'est une image pour nous en tant que chrétiens qui nous dit qu'il y a de très bonnes choses à découvrir. Et pour découvrir ces choses, il faut tout d'abord traverser un fleuve. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi d'abord traverser le Jourdain? Et pourquoi c'est seulement après qu'on peut prendre possession du pays? Oui, parce que traverser le Jourdain, cela veut dire, le Jourdain qui est très plein le temps de la moisson, ça parle de la mort. C'est le fleuve de la mort, et le peuple devait traverser le Jourdain après que l'arche du Seigneur avait été sur les épaules des sacrificateurs, étaient portés et les sacrificateurs s'étaient arrêtés au Jourdain. Et après, le peuple pouvait traverser. Alors ça veut dire, le Seigneur est mort, nous sommes morts avec le Seigneur, Mais ils ne sont pas restés dans le Jourdain, ils sont sortis de l'autre côté. Il faut réaliser cela pour pouvoir découvrir la position chrétienne. Nous sommes morts avec le Seigneur Jésus et nous sommes ressuscités avec lui. Nous avons de nouvelles associations. Nous n'avons plus, on pourrait dire, notre ancienne identité, mais maintenant nous sommes identifiés avec le Seigneur Jésus, l'homme qui est dans la gloire. Alors, c'est seulement à ce moment-là qu'on est capable de se réjouir des fruits de ce pays. Et la grande question, c'est dans quelle mesure est-ce que nous sommes en Canaan? Est-ce que nous nous réjouissons du miel et qu'est-ce qu'il y avait? Les olives, les grenadiers, les figues, tous ces fruits merveilleux. C'est quoi ces fruits pour des chrétiens? Bon, si on lit un peu dans Éphésiens, on aura une idée, hein? C'est que Dieu nous a bénis avec toutes les bénédictions spirituelles, qu'il nous a choisis avant la fondation du monde, qu'il a fait de nous ses fils, qu'il nous a donné la vie éternelle, la communion avec lui. Et ce sont tous des choses dont on peut se réjouir seulement quand on a fini avec soi-même. Quand on réalise sa position chrétienne, que nous sommes, c'est toujours répété en Éphésiens, hein, que nous sommes en Christ, que Dieu nous voit en Christ. Alors, il y a une chose qu'il faut bien comprendre si on compare Éphésiens et Josué. Parce que en Éphésiens, c'est un, vous avez cette belle expression, hein, un fait accompli. C'est un fait, une fait accompli. Que Dieu nous a bénis. Il nous a donné ces choses. Il nous a élus avant la fondation du monde, etc. Mais dans Josué, il est question de prendre possession du pays. Il nous appartient, mais on n'est pas encore là, en Josué. Alors pourquoi ? Parce que Éphésiens nous montre notre position, ce que nous sommes en Christ. Toutes ces richesses sont à nous. Mais dans l'Ancien Testament, nous trouvons le côté pratique, la réalisation pratique, la question, est-ce que je me réjouis vraiment de ces choses? Si je vous donnais un papier blanc maintenant, et je vous demande d'écrire juste une demi-page. Sur le sujet, quels sont les fruits du pays dont je me suis réjoui la semaine dernière? Qu'est-ce qui m'a touché? Bon, est-ce qu'il y aura une demi-page après? Peut-être toute la page est pleine, j'espère. Mais c'est la question, hein? Est-ce qu'il y a la réalisation pratique? Et je pensais regarder peut-être ce passage ici rapidement, et après de voir comment ça s'est passé. Parce que Josué reçoit des promesses merveilleuses dans ce passage, et après la question se pose, oui, et après, ça s'est passé comment? Alors, regardons rapidement. Il arriva après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel. Alors Moïse, image du Seigneur Jésus, le sauveur qui les a sauvés de l'Égypte. Mais maintenant, il y a un nouveau conducteur, c'est Josué. Et Josué est aussi une image du Seigneur Jésus, mais comme celui qui mène la bataille par son esprit, par la puissance de son esprit, pour que nous puissions nous réjouir de ce pays. D'ailleurs, c'est très beau quand il dit ici, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel. J'ai oublié le nombre maintenant, je crois qu'il est appelé serviteur de l'Éternel peut-être 5 ou 6 fois, mais seulement après sa mort. Ce n'est pas un titre qu'il s'est donné soi-même, serviteur de l'Éternel, mais Dieu lui donne ce nom après sa mort. Il est répété, ou l'accent est mis là-dessus, « Moïse, mon serviteur, est mort ». Alors il y a ce changement. On pourrait dire que Moïse avait apporté la loi, et la loi n'est pas capable de nous faire entrer dans le pays, de nous faire réjouir de notre position chrétienne. Alors c'est pour cela qu'il fallait un autre conducteur, et c'est Josué qui les mène. C'est une image du Seigneur qui les mène par l'Esprit. Et maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, on en a parlé, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je leur donne à eux, les fils d'Israël. Petite parenthèse ici, on voit où le pays de Canaan commence. Le Jourdain était la frontière. Ce qui veut dire que si on ne traverse pas le Jourdain, on ne se trouve pas vraiment dans le pays de Canaan. Et cela montre combien c'était dommage quand 2 tribus et demie, dans Nombre 32, on dit à Moïse, on a quand même une demande. Et ils utilisent des paroles très belles. Ils disent, si nous avons trouvé grâce dans tes yeux, bon, si nous avons trouvé grâce dans tes yeux, on aurait pensé, ils continuent en disant, laisse-nous entrer dans le pays. Mais ils disent le contraire. Ils disent, ne nous fais pas traverser le Jourdain. Et ils donnent une raison très simple. Ils disent, ici c'est bien pour le bétail et pour les troupeaux, et tes serviteurs ont des troupeaux. Ils ont manqué beaucoup, mais ce que Dieu avait prévu, c'est ce que nous trouvons ici, de traverser le Jourdain. Alors il dit, « Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous ai donné, comme j'ai dit à Moïse. » Alors ce verset est très important. Est-ce que le pays est à eux ou non? Est-ce que c'est leur possession ou non? Alors, j'ai dit dans Éphésiens, la réponse est oui, c'est à nous. Mais Éphésiens dit quand même, il y a aussi des batailles dans les lieux célestes. Il faut toute l'armure, c'est ça, de Dieu, pour combattre, pour se réjouir de cela pratiquement. Alors ici, Dieu donne une condition, il ne dit pas « tout lieu je vous ai donné », mais « tout lieu que foulera la plante de votre pied ». Alors il y a deux côtés. Un côté, c'est que Dieu veut tout donner, gratuitement. L'autre côté, il faut y aller, il faut mettre son pied là-dessus. Alors est-ce que vous avez mis vos pieds sur Romain, déjà. On en a parlé un moment. Est-ce que c'est position personnelle? Possession personnelle? Est-ce que vous avez mis le pied sur Éphésiens? On en a parlé rapidement. Est-ce qu'on a mis le pied sur Philippiens? Est-ce qu'on connaît la joie chrétienne? Et on pourrait continuer comme ça. C'est un grand pays. Il a beaucoup à découvrir. Et je sais que les jeunes, ils savent beaucoup de choses sur la technique, sur la physique, chimie, sur les ordinateurs, l'informatique, le sport. C'est un montant d'informations qu'on a enregistrées dans le cerveau. Mais est-ce qu'on a réservé un peu pour le pays, pour mettre le pied dessus, pour vraiment posséder? On peut poser la question autrement. Pendant les 4 semaines passées, Combien de territoires est-ce qu'on a pris? Quelles sont les vérités dont on se réjouit vraiment maintenant, parce qu'on l'a compris maintenant, qu'on ne connaissait pas encore il y a 4 semaines. Alors Dieu veut nous encourager. Il dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous l'ai donné, comme j'ai dit à Moïse. Et maintenant, il dit, ce pays a aussi des frontières qui sont depuis le désert. C'est le premier. Et puis le Liban et l'Euphrate et la Grande Mer. Alors, que sont ces 4 frontières? Peut-être on peut dire que c'est très simple, parce que la frontière entre le bon pays de Canaan et ce qui n'en fait pas partie, c'est très simple, c'est le monde. Et on a le monde dans des formes différentes. Il y a le désert, ça veut dire le monde n'offre rien qui nous rafraîchit spirituellement. Deuxièmement, on a le Liban. C'est ce qui est imposant, hein, les cèdres du Liban. C'est peut-être le monde dans sa grandeur, dans son orgueil. Et puis, on a le fleuve Euphrate. C'est le lieu, on pourrait dire, le siège de l'idolâtrie qui s'est établi là-bas. Et puis, on a encore une frontière, c'est la Grande Mer, ça veut dire la Méditerranée. Et la Grande Mer parle du commerce. Bon, on doit tout acheter et des fois vendre des choses, mais le problème, c'est si cela prend possession de notre cœur, nous nous éloignons du pays. Alors Dieu donne cette promesse, il dit « Personne ne tiendra devant toi tous les jours de ta vie. » Alors, c'est cette phrase que j'aimerais qu'on teste un peu ensemble après, en regardant qu'est-ce qui s'est passé plus tard dans le livre de Josué. Comment ça s'est passé avec cette promesse « Personne ne se tiendra devant toi tous les jours de ta vie. » Mais quand Satan que Dieu donne cette promesse, il dit « Tout le pays est pour vous, il n'y a rien que vous ne pouvez pas, dont vous ne pouvez pas prendre possession. » Comme j'ai été avec Moïse, ainsi je serai avec toi. Peut-être c'est la question la plus grande dans toutes les questions de notre vie. La question, ce n'est pas seulement si on a bien réfléchi ou que pensent les autres, mais la question principale et centrale, c'est est-ce que le Seigneur peut être avec nous sur ce chemin? Ça fait toute la différence. Le Seigneur est le, comme quelqu'un a dit, il est le numéro 1 avant tous les zéros. Si le Seigneur manque, si son approbation manque, il n'y a pas de valeur. Mais il donne cette promesse, il dit, si tu marches sur ce chemin, je serai avec toi. Je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. Et maintenant, il nous dit, il y a un autre côté. Ça, c'est la promesse de Dieu. Mais maintenant, il dit, verset 6, « Fortifie-toi, sois ferme, car toi, tu feras hériter à ce peuple le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. » Alors Dieu revient jusqu'à la promesse qu'il a faite à Abraham. Il avait dit à Abraham, « Tu auras des enfants, une descendance, ce sera un grand peuple, et je leur donnerai un pays qu'ils peuvent posséder. » Maintenant, il dit, « C'est à tâche maintenant de distribuer ce pays au peuple de Dieu. » Peut-être une petite parenthèse pour ceux qui étudient un peu la Bible. Je ne pense pas que ici ce soit l'accomplissement final. Dieu ne dit pas, Josué, si tu fais entrer le peuple dans le pays maintenant, la promesse que j'ai donnée à Abraham, c'est accompli, c'est fini. Parce que plus tard, ils ont quand même perdu ce pays. Ce qu'il dit, c'est, tu as une tâche importante, parce que tu feras entrer le peuple dans le pays que j'ai promis à Abraham. Et en parenthèse, qu'ils vont perdre et qu'ils vont recevoir encore une fois dans l'avenir. Okay. De toute façon, c'est la responsabilité maintenant de Josué. Dieu veut donner tout cela, mais il doit être fort, fortifie-toi. Encore une fois dans le verset 7, seulement fortifie-toi, sois très ferme pour prendre garde à faire selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a commandée. Alors c'est le secret, on pourrait dire, du succès dans la vie chrétienne, c'est l'obéissance, c'est l'écouter la parole, c'est écouter la voix de Dieu. Pour le Seigneur, il était l'exemple absolu et parfait. Isaïe 50 ou 51, il dit « Chaque matin, tu m'as ouvert l'oreille ». Il était l'homme dépendant qui chaque matin a écouté la voix de son Père. Alors il dit « Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche, afin que tu prospères partout où tu iras. » Il y a toujours ces deux possibilités, hein, de dévier de la voie de Dieu, soit à droite, soit, disons, ça veut dire être extrême, peut-être... exiger, c'est le mot que je cherchais, exiger des choses de mes frères et sœurs que Dieu n'a pas dit. Et sur l'autre côté, il y a le danger du laxisme, de ne pas prendre au sérieux ce que Dieu a dit. Verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Alors on pourrait poursuivre cette histoire du livre un peu dans l'Ancien Testament. Dieu avait dit plus tard pour les rois, s'il y a un roi en Israël, il doit copier le livre. Et ce n'était pas copier et coller comme nous faisons aujourd'hui. Hein. Ce n'était même pas avec une vieille méthode, un photocopieur, mais c'était à la main. Le roi devait copier toute la loi à la main. Mais quand on arrive au temps de Josias, le jeune roi, à 8 ans, il est devenu roi, et il avait à cœur de faire quelque chose pour Dieu, alors il a dit, bon, on va d'abord enlever les idoles, et maintenant on va rénover un peu la maison de l'Éternel. Et un messager arrive et lui dit, oui, les travaux avancent, on est en train de construire, et ça va tout très bien, et à la fin il dit, et d'ailleurs, on a trouvé un livre. Trouvé. C'était le livre de la loi qui était perdu là dans le sanctuaire, dans le temple, et il était inconnu. Et Josias dit, mais lis-le. Il était effrayé quand il a entendu ce qu'il y avait dedans, où ils avaient transgressé. Alors, c'est le danger de perdre vue du livre, pour nous aussi. Hein. Donc, quelle est la première chose le matin? Sérieusement, hein. C'est la Bible ou les nouvelles? C'est, oui, combien de nourriture spirituelle je reçois avant de confronter le monde? Avant de m'engager dans mes devoirs. Alors, Dieu dit, c'est très important, prends ce livre, il ne doit pas s'éloigner de ta bouche, médite-le jour et nuit, afin que tu prennes garde à faire selon tout ce qui est écrit. Oui, je sais qu'il faut se concentrer au travail. Je ne peux pas dire à mon chef, j'ai pas fait attention aujourd'hui parce que j'étais en train de méditer. Hein. J'ai médité la loi de mon Dieu, non. Mais il dit que quand nous sommes libres, quand nous avons de la capacité, nous pouvons nous occuper de quelque chose, quel est le sujet que nous choisissons? Est-ce que c'est vraiment la parole de Dieu qui, qui remplit nos cœurs. Ne t'ai-je pas commandé, fortifie-toi et sois ferme, ne te laisse point terrifier et ne sois point effrayé, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. Alors on dit merveilleux. Josué a reçu toutes ces promesses. Dieu dit, partout où tu vas, je suis avec toi. Personne ne peut rester debout devant toi. Tu peux y aller. Prends possession du pays. Et si Dieu le dit, ça doit être vrai. Mais qu'est-ce que vous pensez de cette question? Comment ça s'est passé après Josué 1? J'aimerais donner quelques exemples. Peut-être 1, 2, 3. Trois exemples pour voir comment ça s'est passé. Parce qu'on verra que ce n'était pas si évident que ça. Premier exemple, c'est le chapitre 6. Jéricho était fermé et avait barré ses portes devant les fils d'Israël. Personne ne sortait, personne n'entrait. Et l'Éternel dit à Josué, « Voici, j'ai livré en ta main Jéricho et son roi et les hommes vaillants. Vous ferez le tour de la ville, tous les hommes de guerre, en tournant autour de la ville une fois, et tu le feras pendant 6 jours. » Et 7 sacrificateurs porteront 7 trompettes retentissantes devant l'arche. Et le 7e jour, vous ferez le tour de la ville 7 fois. Et les sacrificateurs sonneront les trompettes. Et il arrivera que lorsqu'ils sonneront longuement de la corne retentissante, aussitôt que vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple jettera un grand cri. Et la muraille de la ville tombera. C'est le premier exemple. Et ça, c'est un exemple tout de suite très encourageant, l'exemple de Jéricho. Déjà, quand on dit qu'ils avaient fermé et barré les portes, on voit ce qui était passé, hein, ce qui était arrivé. Ils avaient lu ou écouté les nouvelles. Et c'était les nouvelles de 40 ans avant. Les nouvelles, c'était il y a un peuple qui avance, qui s'approche de Jéricho, et ils sont très dangereux parce qu'ils ont un Dieu qui est très grand. Et ce Dieu, il les a libérés de l'Égypte, il les a fait traverser la mer Rouge, il les a soutenus dans le désert, et ils avaient peur. Comme le dit aussi Rahab, il dit « Nous avons tremblé ». Nous sommes tous en train de trembler devant vous et devant votre Dieu. Comme si c'était passé hier, cette affaire avec l'Égypte. Alors, ils ont barré la porte et Dieu donne ses instructions. Alors, si on regarde les instructions, on dirait, ce n'est pas raisonnable. Dieu propose, Dieu commande quelque chose. Il promet un effet de cela qu'on ne peut pas expliquer. Si on fait le tour de la ville 6 jours et le 7e jour 7 fois, cela ne va pas ébranler les murs. Alors il y a une seule réponse, une seule question. Est-ce qu'ils ont de la foi ou non? Est-ce qu'ils font confiance à Dieu ou non? Est-ce qu'ils sont prêts de crier ce cri de victoire même avant que les murs tombent, juste après avoir fait le tour 7 fois? Et la bonne et la belle réponse, c'est oui, ils ont écouté. Ils ont sonné les trompettes qui parlent en fait du témoignage de la parole. Ils ont fait confiance à Dieu, ils ont obéi, ils avaient la foi. En fait, des fois, la foi fait des choses qui semblent pas raisonnable. Mais ce n'est pas la définition de la foi. On peut faire des choses qui semblent pas raisonnables et cela n'a rien à voir avec la foi. La foi se repose sur ce que Dieu a dit et agit sur ce que Dieu a dit. Alors si Abraham veut sacrifier son fils et si Noé veut construire un grand bateau, c'est la foi. Si Noé veut sacrifier son fils et Abraham veut construire un grand bateau, c'est la folie. Ok ? Alors la foi se repose sur ce que Dieu a vraiment dit. Et c'est ce qu'ils ont fait ici. Et Dieu a donné la réponse et les murs sont tombés. Ils ont pu prendre possession de Jéricho. Alors, c'était quand même une forteresse. Hein. Et quand ils ont traversé le Jourdain, ils se trouvaient juste en face de Jéricho. C'était un obstacle immense, pas à surmonter. Et Dieu donne la méthode. Et la méthode veut dire, écoutez-moi, croyez en ce que je dis, agissez selon cela, et il leur donne le succès. Deuxième exemple. Rapidement, chapitre 7. Verset 2. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Aï, qui est près de Beth-Aven, à l'orient de Bethel, et leur parla, disant, « Montez et explorez le pays. » Et les hommes montèrent et explorèrent Aï, et ils retournèrent vers Josué et dirent, « Que tout le peuple ne monte point, que 2000 ou 3000 hommes environ montent, et ils frapperont Aï. Ne fatigue pas tout le peuple en l'envoyant là, car ils sont peu nombreux. » Et il y monta du peuple environ 3000 hommes, mais ils s'enfuirent devant les hommes d'Aï. Et les hommes d'Aï en frappèrent environ 36 hommes, et ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim, et ils battirent à la descente, et le cœur du peuple se fondit et devint comme de l'eau. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on peut penser maintenant de la promesse de Dieu dans Josué 1? Personne ne peut se tenir devant toi. Et maintenant, il y a une petite ville, Haï. On dit, bon, c'est pas sérieux, il y a peu de personnes là-bas. On ne veut quand même pas exagérer. On voit 2000, 3000, ça suffit. On est même prudent, on prend 3000. Et on a une défaite. Une défaite complète. Alors, ce n'était pas vrai ce que Dieu avait dit. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, Dieu avait dit, je serai avec toi, personne ne peut te résister. Mais il avait aussi dit, il faut écouter la parole. Il faut agir en confiance en moi. Il y avait deux choses qui étaient arrivées et qui expliquent ce qui se passe. La première, on lit dans le premier verset, « Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, etc., prit de l'anathème. » Et la colère de l'Éternel s'embrasa contre les fils d'Israël. Alors Dieu avait dit, je vous donne la victoire sur Jéricho, mais vous devez brûler la ville entière. On ne peut pas prendre le butin. Et Akan, il avait agi contre cela. Dieu était en colère contre lui et contre le peuple. Et le résultat, c'était que Dieu ne pouvait plus être avec le peuple d'Israël. Comme on a vu dans le chapitre 1, La question principale, c'était « Je serai avec toi ». Oui, mais quand il y avait l'affaire d'Achan, Dieu ne pouvait plus être avec eux. Et ça, c'est une première question. Si nous trouvons que dans notre vie chrétienne, il n'y a pas seulement des victoires, mais aussi des défaites. Bon, si j'ai quelque chose dans ma vie où je sais, ce n'est pas selon la volonté du Seigneur, mais je le garde. Je ne veux pas lâcher. Je ne peux pas attendre que le Seigneur me donne la victoire. Je dois m'attendre à une défaite. Mais il y a une deuxième chose. Parce qu'on pourrait dire, oui, mais ce n'était qu'une personne, juste Achan. Pourquoi c'est tout le peuple qui a une défaite? Pourquoi Josué? Oui, mais est-ce que vous avez lu que Josué ait prié, qu'il ait demandé au Seigneur, montre-nous comment le faire, comme tu l'as fait avec Jéricho? Non. Il dit seulement, envoie 3000 hommes, occupe-toi de l'affaire. Et ce sera facile. Alors ce n'était pas seulement le péché d'Achan, mais aussi la condition de Josué et du peuple, une condition de confiance en soi-même et manque de dépendance. Alors pour finir, troisième exemple, mais juste... Je vous encourage à continuer de lire, parce qu'au début, ils avaient une défaite à Haï, mais ce n'était pas la fin de l'histoire. Parce qu'après, ils ont jugé ce qui était mauvais, c'était et leur condition, et le péché d'Achan. Et après, ils ont réessayé de nouveau. Et là, le Seigneur leur a aidé. Ce n'était pas une très belle victoire. Ils devaient s'approcher de la ville de Haï, puis ils devaient faire semblant de s'enfuir de la ville. Puis les gens sont sortis de Haï. Il y avait d'autres qui s'étaient cachés derrière et qui sont entrés dans la ville, qui était maintenant vide, et qui l'ont conquis et brûlé. Alors, ce n'était pas une victoire de beaucoup de gloire, mais c'était une victoire. Parce que ils avaient corrigé ce qui était à corriger. Dernier exemple que je vais donner, c'est dans le chapitre 9, verset 3. Les habitants de Gabaon entendirent ce que Josué avait fait à Jéricho et à Haï, et ils usèrent de ruse eux aussi et se mirent en route préparés comme pour un voyage, et prirent de vieux sacs sur leurs ânes et des vieilles outres à vin crevassées et recousues, etc., de vieilles sandales, etc. Alors ils ont tout fait pour faire semblant qu'ils avaient fait un long voyage. Et maintenant ils disent, verset 6 à la fin, « Nous venons d'un pays éloigné et maintenant traitez alliance avec nous. » Alors la réputation de Josué s'était déjà répandue. On avait su, bon, Israël a un Dieu fort, ils sont en train de conquérir le pays, alors on avait peur. Et il y avait cette ville de Gabaon, et les gens là-bas étaient très rusés. Ils ont dit, bon, si eux, ils sont plus forts, il nous faut faire un contrat. Il nous faut faire la paix avec eux. Alors, ils se sont déguisés. Ils ont dit, on vient de lointain. Vous voyez le pain, vous voyez nos vêtements, et tout ça, c'est très vieux. Alors, faites un contrat avec nous, une alliance. Et si on continue à lire le chapitre, on est un peu déçu. Hein? On voit que Josué, en fait, il signe. Il fait le contrat. Il dit, oui, on ne va jamais vous attaquer. Et seulement après, il a su que c'était une ruse, Betrug. Bon. Oui, c'était un mensonge. Et pour cela, il ne peut plus conquérir leur territoire, il ne peut plus lutter contre Gabaon. Ses mains étaient liées. Et ça devient encore plus compliqué parce qu'il y a d'autres ennemis qui sont liés avec les Gabaonites. Et maintenant, la question... Bon. Non, je vais dire un peu plus de détails. Deux phrases, je termine rapidement. Un peu plus tard, les Gabaonites sont attaqués par des ennemis. Et ils envoient un message à Josué en disant, on a une alliance. Maintenant, tu dois venir, tu dois nous aider. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire? On se rend compte qu'il se trouve dans une situation très difficile. Il ne peut pas rompre cette alliance. Il s'est lié les mains. Et on pose la question, pourquoi tout cela est arrivé? Et dans un sens, on découvre la même chose que dans le chapitre 7. Josué n'avait pas prié. Il n'avait pas demandé à Dieu de leur montrer s'il fallait signer cette alliance, entrer dans cette alliance. Alors, Dieu... Si on continue de lire chapitre 9 et 10, on trouve que Dieu agit en beaucoup de grâce envers Josué. Il lui donne finalement la victoire. Il lui donne un chemin que Josué ne doit pas rompre l'alliance qu'il a faite. Il ne doit pas ajouter un deuxième péché au premier. Et il lui donne la victoire. Dieu arrête même le soleil quand Josué avait besoin d'un peu plus de temps. Comme ça, la journée était un peu plus longue et Josué a pu avoir la victoire. Alors, je voulais juste montrer ces exemples pour dire que peut-être des fois, ce n'est pas si facile que ça. La vie pourrait être facile si on agit sur Josué 1, écoute ma voix, suis ma parole, fais confiance en moi, et c'est facile, je te donne chaque endroit où tu mets ton pied. Le problème, c'est qu'il y a des complications, des fois, dans notre vie spirituelle, et c'est parce que, bon, il y a ces raisons qu'on trouve dans ces trois exemples. Il y a peut-être du péché caché, il y a peut-être une manque de dépendance, il y a peut-être un état spirituel qui n'est pas bien, qui ne fait pas, se repose pas sur Dieu, mais sur nous-mêmes. Et dans ces cas-là, on ne doit pas être surpris s'il y a des complications, même des défaites. Mais ce qui est encourageant, c'est que Dieu a toujours donné une issue, une solution avec Haï, aussi avec les Gabaonites, même si d'abord il y avait une défaite, après Dieu a donné la victoire. Dieu est toujours fidèle, ce qu'il dit reste toujours vrai, et il veut nous donner tout ce pays. Il veut qu'on se réjouisse de tous ces bons fruits, mais qu'il nous donne aussi d'avoir cette dépendance sur sa parole, et cette confiance en lui pour vraiment nous réjouir de toutes ces bonnes choses.
Je descends loin, ne se passe et le verre. 12. 226. Je chante trop, fais-nous contempler.
226, la deuxième strophe.